Vous écoutez France Culture.
Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On s'intéresse ce matin aux efforts prodigieux des hommes pour essayer de légiférer le monde végétal. Thierry Thévenin, vous étiez venu nous voir il y a 2 ans déjà pour nous parler de votre profession. Vous êtes producteur herboriste. Vous êtes aussi le porte-parole du syndicat des simples qui rassemble un certain nombre de petits producteurs, cueilleurs d'herbes sur l'ensemble du territoire, cueilleurs, commerçants. Et on avait fait un état des lieux, je me souviens, qui était assez inquiétant déjà, de cette profession, de ce métier qui est en butte à toutes sortes d'attaques et qui... survit, alors je ne sais pas s'il faut dire qu'il survit difficilement, on reviendra là-dessus, mais en tout cas, mettons qu'il n'est pas en pleine prospérité. Et puis voilà que vous avez publié il y a quelques mois un livre aux éditions Actes Sud que vous avez intitulé « Plaidoyer pour l'herboristerie ». Et donc déjà dans le titre, on sent que l'alarme est restée, qu'elle est toujours bien réelle. Donc vous allez nous expliquer pourquoi ce terme de plaidoyer, mais peut-être d'abord... vous demanderai-je un état des lieux, non pas de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, mais de la situation telle qu'elle a pu exister. Alors évidemment, vous n'avez pas nous donné toutes les nuances, mais pendant très longtemps et dans pratiquement tous les pays de la planète, l'herboristerie, le fait de cueillir des herbes, le fait de les utiliser, de les employer, c'était à la portée de tout le monde. Je ne veux pas dire n'importe qui, mais à la portée de tout le monde. Et ce n'était pas uniquement pour concocter des bonnes soupes.
Voilà, bah d'ailleurs, moi j'ai envie de parler au présent. C'est vrai que c'est encore quelque chose qui est a priori à la portée de tout le monde. Il suffit simplement un petit peu de se renseigner, de se former. Enfin, c'est un apprentissage. Et voilà, donc on peut parler autant au présent qu'au passé. Parce que c'est vrai que ce qui est marrant, c'est quand on regarde l'histoire, on voit qu'on n'avance pas tellement, on pédale dans la semoule un peu. On répète les mêmes choses. Ça tient souvent à des espoirs, à des peurs. Et qui semble assez universel, puisque donc la plante médicinale, c'est l'espoir d'être en bonne santé, de conserver sa santé, voire éventuellement de guérir une maladie. C'est aussi des peurs, les peurs de se tromper, de s'empoisonner, de faire des mauvais choix. Et ça traverse un peu les pays et les cultures.
Pourquoi dites-vous qu'on n'avance pas alors que le discours dominant, c'est que depuis un siècle, au contraire, on a fait des avancées spectaculaires, que les plantes maintenant, c'est du domaine du passé, justement, et qu'aujourd'hui... ces questions de santé que vous évoquez sont largement traitées par la chimie.
Ben là, ouais, actuellement quand même, c'est vrai que ce que vous venez de dire, c'était vrai, je pense, dans les années 30, 40, même 50, l'âge d'or des amphétamines là, qui nous permettaient de grimper jusqu'en haut l'Himalaya et d'être la première des nations à vaincre un 8000, ça c'était grâce au Maxiton, ça c'est les années 50, l'après-guerre. Aujourd'hui on n'en est plus là, hein. Et le miracle du tout chimique, il est quand même vraiment remis en cause. Bon, il y a l'affaire du Mediator, mais il y en a eu plein, il y en a eu des dizaines. Et les plantes, eh ben, elles semblent avoir à nouveau leur mot à dire. Alors ce qui est assez marrant, c'est que donc, moi ça fait une trentaine d'années que je travaille avec les plantes, et donc j'en vends, et donc je vois les réactions des gens, et c'est vrai que c'est un petit peu comme quand on sème ces salades ou ces aubergines, on est toujours surpris de voir que ça lève et que ça marche. Et bien les plantes, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'elles ont encore leur mot à dire, parce qu'en fait, effectivement, les plantes, c'est efficace pour plein de problèmes primaires, hein, des soins de base. En première intention, c'est efficace, et là, on y revient en force. Mais c'est vrai que donc pourquoi j'ai choisi le titre de plaidoyer pour ce livre, c'est que ces remèdes-là qui sont donc accessibles, qui sont efficaces, qui peuvent être efficaces même à nous surprendre, en fait, bah, c'est quelque chose à défendre. Et ça ne date pas d'hier ni même d'avant-hier, c'est depuis très longtemps. C'est quelque chose qui a essayé d'être accaparé par des gens de pouvoir. La santé, on sait très bien que c'est notre bien le plus précieux, même si on ne le sait pas toujours consciemment. Enfin, en tout cas, dès qu'on a un petit rhume, ben, on s'en rend compte, parce qu'on voit qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait d'habitude. Donc c'est un enjeu de pouvoir incroyable. Et donc l'accès aux plantes médicinales, à pouvoir les utiliser, c'est quelque chose qu'il a toujours fallu défendre, et aujourd'hui encore plus peut-être que par le passé.
Vous dites toujours, on a des exemples vraiment anciens de ces enjeux de pouvoir autour des plantes.
Oui, alors quand je dis toujours, c'est vrai que les traces qu'on peut avoir, les documents qu'on peut avoir, en fait, c'est dans les sociétés urbanisées, dès qu'il y a de la mémoire qui est gravée dans la pierre ou dans l'argile ou dans le papier, hein. Mais ça remonte à très très loin. Déjà, le Hammurabi, ça remonte quand même vraiment à la Mésopotamie. Déjà, il y a des codes, il y a un code pénal qui encadre la pratique de la médecine. Alors à l'époque, c'était quasiment 100% avec les plantes, hein. Je dis quasiment parce qu'il y a toujours eu à peu près partout aussi les remèdes animaux ou minéraux. On tire des remèdes de tous les trois règnes, hein. Mais globalement, c'est quand même beaucoup les plantes. Déjà, à l'époque, c'est vraiment quelque chose qui est encadré. Et même souvent, la preuve qu'il y a une quête de pouvoir autour de la santé des remèdes, c'est que très souvent, d'ailleurs, dans les sociétés archaïques comme ça, le roi est également médecin, même si c'est d'une manière symbolique. Mais enfin,
Il a ce titre-là.
il a ce titre-là, oui. Et le pouvoir donc temporel, pouvoir religieux, et pratiques médicales sont complètement confondues dans l'Antiquité. Les rois sont à la fois des prêtres et à la fois des médecins.
Mais je suis en train de réfléchir sur ce terme que vous avez choisi, d'encadrement. La pratique de la médecine est encadrée. Encadrée, de quelle manière est-ce que c'est une forme d'exercice du pouvoir?
Oui, donc très tôt, effectivement, le pouvoir cherche à encadrer et à limiter, parce que aussi, il faut voir que les médecins ont très vite un prestige, quoi. C'est les gens quand même à qui on se remet entre leurs mains si on ne va pas bien. Donc on se donne un peu, on se remet à eux. Donc très rapidement, alors souvent c'était assez radical, à Hammurabi, par exemple, c'est la loi du talion, en fait, hein. Si un médecin soigne une plaie à la main de quelqu'un puis qu'il a échoué, en fait on lui coupe la main, quoi. Donc c'est très très radical au moment. Mais très vite, il y a un encadrement donc, qui vise à prendre des sanctions si jamais le médecin a failli à sa mission, et avec aussi des règles de conduite. Bon, je ne suis pas spécialiste de ces textes-là parce que c'est très très vieux, ça a été gravé dans des tablettes d'argile, mais on voit que c'est déjà assez précis, quoi. Et plus on avance, plus le médecin va ressembler petit à petit à ce qu'il est aujourd'hui dans tous les pays de type occidentaux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fabrique pas ses remèdes. Qui les délivre pas non plus. Ça, c'est déjà assez ancien. Dès le Moyen Âge, on a séparé les activités. Aujourd'hui, c'est simplement donc quelqu'un qui va diagnostiquer et prescrire des remèdes.
Mais alors justement, avançons dans le temps et regardons ce qui se passe à cette époque, vous dites le Moyen Âge, où on sépare les activités et où donc des corps de métier apparaissent. C'est l'apothicaire, c'est l'herboriste, c'est le médecin, l'épicier même, éventuellement.
Donc c'est 13e en fait, dès le 13e où c'est vraiment, on a les textes, il y a des ordonnances royales qui donc précisent les choses. Mais donc effectivement, on voit très nettement d'un côté les médecins, on les appelait les physiciens d'ailleurs à l'époque, c'était le terme, et puis de l'autre côté les apothicaires, et même au début d'ailleurs confondus avec les épiciers. C'était vraiment la corporation des épiciers-apothicaires. Et donc dans cette corporation-là, après, ils se sont scindés parce qu'en fait, il y a eu deux courants dans la profession. Il y avait les véritables épiciers, donc c'est-à-dire c'est les gens qui faisaient un négoce international d'épices, donc le poivre, la cannelle, les choses comme ça. Et ça, c'était des gens qui étaient extrêmement riches. Et les apothicaires, proprement dit, eux, étaient plus sur la préparation des remèdes, et donc ils travaillaient avec les physiciens, donc ils préparaient vraiment des médicaments. Alors à l'époque, c'était beaucoup des clistères, des solutions buvables. Et ces gens-là, donc, à un moment donné, se sont trouvés un peu en conflit, parce que d'un côté, on avait des épiciers, mais qui étaient vraiment plutôt des grands négociants et quasiment des financiers, et de l'autre côté, des gens qui étaient hyper techniques, et qui donc s'étaient spécialisés sur la préparation de remèdes prescrits par les médecins. Donc il y a eu une dissociation. Il y avait d'un côté des gens très très riches, qui avaient des intérêts forcément différents, de gens qui étaient sans doute beaucoup moins riches, mais qui étaient aussi plus proches du pouvoir. Parce que ce qu'il faut bien
Et
avoir
plus
à
technique.
Et plus technique. Et parce que ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ces médecins et ces physiciens qui semblent assez importants, puisque finalement on en voit trace dans les ordonnances royales, c'est rien, c'est que dalle par rapport à la population. Il y avait quelques centaines de médecins pour toute la France, même jusqu'au 14e, et en fait, ben, il y en avait, le roi devait en avoir une vingtaine à lui tout seul, la reine devait en avoir une demi-douzaine. le pape en Avignon, quand il y avait les papes en Avignon, il en avait une centaine. En fait, c'est-à-dire que le reste de la population n'avait pas. Ça concerne même pas 1% de la population.
En fait, ce sont des gens de la cour, d'une certaine façon.
Voilà, qui gravitent autour des puissants.
Mais Thierry Thévenin, on se sent un peu perdu quand on vous écoute, parce que ce qui a disparu dans tout ce que vous nous décrivez, là, dans ce microcosme que vous nous décrivez, ce sont les plantes et les herboristes. Où sont-ils ? Est-ce qu'il faut les chercher du côté des épiciers ? Est-ce que les épiciers faisaient venir en même temps que les épices précieuses des plantes de toute la planète pour soigner les gens ? Et les herbes, où étaient-elles ?
Alors elles sont invisibles, elles sont là. C'est eux qui assurent vraiment la santé publique. Mais pour revenir aux herbes et aux herboristes, ils existent, ils sont là, c'est les plus nombreux et c'est eux qui s'occupent de la majorité de la population. Mais seulement ils sont politiquement, socialement invisibles. Donc il y a des marchés aux herbes, y compris en ville, dans Paris. C'était la rue des Lombards, par exemple, où il y avait pas mal de marchés aux herbes avec des hommes, des femmes qui venaient de la campagne vendre leurs herbes. Ils sont très nombreux. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucune force politique et ils ne peuvent pas être connus. Ils sont quand même présents, on les voit dans certaines ordonnances royales, ils sont cités, mais ils ont un espèce de strapontin, quoi.
Est-ce qu'ils ont des savoirs que la population générale n'a pas ?
Oui, je pense que dans toutes les sociétés, même les plus archaïques, quand une société est très très archaïque, a priori, je ne pense pas dire de bêtises, il y a un fond de savoir assez commun à tout le monde, parce qu'on est vraiment, il n'y a pas une hyper spécialisation des tâches. Donc tout le monde a un fond de savoir assez important vis-à-vis des plantes, notamment.
Est quoi, par exemple ?
Oh, ça va être, à mon avis, d'après les enquêtes ethnobotaniques qui ont pu être faites à la fin des années 80, où là on a encore des gens de l'ancienne société qui sont vivants et qui témoignent, une région comme la Provence ou les Cévennes, la plupart de la population connaît une centaine, est capable de reconnaître une centaine d'espèces de plantes.
Et de les employer pour se soigner.
Et de les employer pour se soigner, au moins pour les soins de base, pour les petits maux de la vie quotidienne. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a toujours eu des gens qui sont un peu plus spécialisés. Voilà, une attirance, une passion, un talent, enfin voilà. Déjà à l'époque, effectivement, ils sont d'ailleurs nommés, on les appelait les herbiers, on ne les appelait pas les herboristes au Moyen-Âge, les herbiers ou les herbières. Et donc ces gens-là, c'est des gens qui ont un peu plus de connaissances que la moyenne des gens, qui se sont spécialisés et qui peuvent délivrer justement les remèdes qui ne sont peut-être pas de la vie courante pour des choses un peu plus spéciales. Là, effectivement, on allait voir l'herboriste.
Ce sont ces gens-là qu'on trouve sur les marchés, sur les étals, sur les foires. Vous étiez en train de nous décrire tout à l'heure rue des Lombards à Paris.
Voilà, c'est ce qui a distingué aussi les herbiers des apothicaires, c'est qu'assez rapidement, les apothicaires ont eu des boutiques et ont été sédentaires. Et donc c'était une des critiques d'ailleurs qu'ils faisaient vis-à-vis des herbiers ou des herbières en disant qu'ils vendaient leurs plantes sur des trottoirs, enfin voilà, un peu comme des Romanichel ou je sais pas quoi, c'est assez méprisant. Et c'est vrai que les herbiers, eux, étaient plutôt sur les marchés, sur le carreau, dans les rues, et ne tenaient pas boutique. Et il faut voir quelque chose qui est très important à cette époque-là. Pour pouvoir exister socialement, être reconnu, il faut obtenir, alors ça change suivant les siècles, mais une bannière. On pourrait dire aujourd'hui, c'est un peu une patente. Et ça coûte très cher. C'est quelque chose qui est renouvelable, c'est du système de taxes. C'est déjà une taxe pour avoir le droit d'exister. Et donc, les apothicaires avaient bien sûr leur bannière, les physiciens aussi. Les herbiers, ils ont eu beaucoup de mal. Et même, ils n'y sont pas vraiment arrivés. En fait, pour pouvoir obtenir cette bannière, ils se sont associés à l'époque, enfin les herbiers de Paris en tout cas, s'étaient associés aux maraîchers, aux vendeurs de salades, aux vendeurs d'œufs, aux gens d'ailleurs qui travaillaient avec eux peut-être dans la rue d'à côté.
Ça signifie que sur le même étal, on pouvait trouver des légumes, des œufs et des plantes médicinales. Thierry Thévenin.
Pas forcément. Malheureusement, on n'a pas tellement de documents sur cette époque. Moi, je pense pas forcément sur le même étal, mais certainement en grande proximité au niveau de l'endroit, dans le quartier. Bon, il y avait ce quartier des Halles, et peut-être qu'il y avait la rue des vendeurs d'œufs, la rue des herbes et la rue des maraîchers qui étaient proches. Donc ces gens-là se rassemblaient pour essayer de s'organiser ensemble et obtenir vraiment une reconnaissance officielle et obtenir leur bannière. Ce qui fait que du coup, les herbiers, pourquoi ça a été important, c'est que ça les a... Stratégiquement, politiquement, c'était sans doute un peu une erreur parce que ça les a plutôt éloignés des professions de santé et ça les a plus rapprochés de quelque chose qui était de l'ordre de l'alimentaire. Et donc, du coup, assez rapidement, en fait, ça s'est fait au fur et à mesure des siècles, mais les apothicaires, les médecins ont vraiment grignoté et imposé de dire la santé, la médecine, c'est nous. Et les herbiers, petit à petit, on leur a retiré des droits, on leur a mis des limitations et on a attribué petit à petit le monopole plutôt aux médecins et aux apothicaires. Parce que de fait, ils se sont retrouvés plutôt du côté de l'alimentaire ou du condimentaire, mais ils se sont vraiment éloignés de la santé, du secteur de la santé.
D'accord, parce que là, ce que j'arrive pas bien à comprendre, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, Thierry Thévenin, c'est qu'on ne va pas ni chez l'herboriste, ni chez l'apothicaire, et encore moins évidemment chez le médecin, pour des problèmes de rhumatisme, de douleur de la vieillesse, de... on se soigne seul, ou alors, enfin, on se soigne, on en prend soin, ou alors on vit avec, tout simplement.
Ou alors peut-être on ne se soigne pas.
Donc l'herboriste, il intervient pour quoi ?
L'herboriste, à mon avis, va intervenir pour un problème de santé qui peut mettre la famille en danger. Donc même souvent, on ne va pas forcément venir pour un jeune enfant. Ça aussi, on a du mal à imaginer aujourd'hui, mais les enfants n'en prenaient pas tellement soin. Ça va être plutôt pour les forces vives de la famille. Et l'herboriste, à mon avis, on va surtout y recourir. Je pense, par exemple, qu'ils ont eu beaucoup d'importance à chaque fois qu'il y a une épidémie, qu'il y a un problème de santé où on n'arrive plus à gérer par soi-même. Et là, on va vers l'herboriste pour essayer de s'en sortir. Bon, je pense que dans un milieu urbanisé comme les villes du Moyen-Âge, il y avait sans doute régulièrement des gros problèmes de dysenterie. Enfin voilà, il y a des problèmes comme ça, parce qu'il y a une promiscuité, il y a une hygiène qui est assez douteuse. Donc là, quand on ne peut plus s'en sortir par soi-même, à mon avis, le rôle de l'herboriste, il était très certainement là. D'ailleurs, on peut observer que... Il y a des témoignages de ça à Londres, donc Londres c'est pas la France, mais où au moment des grandes épidémies, les herboristes ont joué...
Des grandes épidémies de lèpre,
de peste. Voilà. Les herboristes ont joué un rôle important, parce que même à ce moment-là, les médecins avaient fui Londres, et seulement les apothicaires et les herboristes étaient restés dans Londres, alors que les médecins avaient fui l'épidémie, et ce qui avait permis d'ailleurs un statut un peu spécial aux apothicaires anglais, des choses qui restent encore à l'heure actuelle, ils ont pu obtenir des droits qui n'ont pas existé en France.
Alors à nouveau, je voudrais que vous nous précisiez un peu la situation, Thierry Thévenin. Là, on a mieux vu le rôle des herboristes, les apothicaires, là-dedans, à quoi servent-ils ? Parce que c'est assez difficile de se représenter la façon dont les uns ou les autres étaient appelés à intervenir. On ne comprend pas très bien si, par exemple, l'herboriste était le premier recours, l'apothicaire le second et le médecin le dernier, ou s'il y avait des domaines particulièrement séparés, ou si véritablement les médecins étaient réservés à une minuscule élite. Et à ce moment-là, les apothicaires qui avaient bannière sur rue, eux, à qui étaient-ils destinés ou à quoi ?
C'est flou, hein. Théoriquement, le médecin est souvent attaché à une personne, en tout cas dans la première partie du Moyen-Âge. C'est vraiment des gens qui sont attachés au service de quelqu'un. Les apothicaires, souvent, ce qui les distingue, c'est que c'est très coûteux d'aller vers eux, parce qu'ils élaborent des remèdes compliqués.
Ce sont des remèdes à base de plantes, tout de même.
Plantes, toujours minéraux, animaux, mais globalement plantes, en majorité des plantes. Mais des fois, des remèdes extrêmement complexes, avec des dizaines d'ingrédients, voire plus de 100 ingrédients pour les thériaques. Donc ça, c'est un coût. Donc c'est vraiment les classes très aisées qui vont voir l'apothicaire. Et les herbiers, ils travaillent un peu avec tout le monde, parce que c'est un peu comme aujourd'hui, on restera toujours des êtres humains, et quand on a un problème, ben on essaye un peu tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui... On voudrait toujours opposer la médecine naturelle, la biomédecine, alors qu'aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, et il y en a beaucoup malheureusement qui sont dans cette situation-là, beaucoup de gens qui ont des cancers, ben, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils vont effectivement faire une chimio, ils vont voir un acupuncteur, ils vont même voir le magnétiseur. Enfin voilà, ils essaient par tous les moyens possibles de s'en sortir. Et à cette époque-là, c'était la même chose. Donc les herbiers étaient finalement fréquentés et consultés par tout le monde. Et ce qui les distinguait vraiment, c'est leur pratique. C'est-à-dire que, normalement, les herbiers travaillaient avec les plantes indigènes, c'est-à-dire les plantes qu'ils pouvaient récolter eux-mêmes et qui étaient peu transformées. Quasiment en l'état, donc simplement des plantes sèches. À une certaine période, on leur a retiré le droit, par exemple, de faire des remèdes qui entraient directement au corps. C'est-à-dire qu'ils pouvaient vendre la plante sèche, mais ils ne pouvaient plus vendre un décocté, une décoction, quelque chose qui soit prêt à consommer. Donc c'est d'abord la pratique qui les distingue et le coût, puisque donc souvent, bah, c'est donc des produits assez basiques qui se trouvent en proximité. Donc c'était des remèdes qui étaient beaucoup moins chers que le remède des apothicaires. Les épiciers, petit à petit, eux, ils sont vraiment plus allés aussi du côté du secteur de
l'alimentaire.
De l'alimentaire, ouais.
Alors, on va essayer de se rapprocher encore de notre époque, Thierry Thévenin. On a vu des professions émerger, se mettre à se côtoyer, à se frotter parfois un peu rudement, mais enfin tout de même à coexister. Mais de fait, dès avant la Révolution française, on sent qu'il y a une petite lutte pour le pouvoir et qu'en tout cas, certains essayent de tirer toute la couverture à eux.
Voilà, donc c'est surtout les apothicaires. Et c'est vrai que c'est un peu édifiant quand on regarde au XVIIe siècle le nombre de procès qui sont faits par les apothicaires à d'autres corporations. C'est assez hallucinant. Bon, voilà, c'est un peu une tradition de cette profession-là. C'est des gens qui voulaient un petit peu tout, qui avaient tout. À une époque, ils avaient donc le monopole de la vente du suif pour les chandelles. Et c'était pas rien. Avant l'électricité, avant EDF, on s'éclairait la chandelle, quoi. Ils ont eu le monopole des poids et mesures. C'est-à-dire que c'était vraiment eux qui étaient garants de tout ce qui était poids et mesures. Et j'en passais des meilleurs. Il y a une douzaine, une quinzaine, tout au long du XVIIe siècle, de procès où les apothicaires tentent de conserver leur monopole et sont donc en procès avec d'autres gens qui veulent commercialiser ça. Et voilà, et ça dure et ça dure. Et c'est vrai que ça met même le pouvoir un peu mal à l'aise. Et le roi, par plusieurs fois, tente enfin à résoudre ça. Et on sent que même donc au niveau des responsables politiques du pays, il y a un agacement, quoi. Mais ce n'est pas que dans ce domaine-là. C'est vrai que un peu avant la Révolution, la France était un pays de corporations. Et c'était des luttes sans fin entre les corporations. Et c'est vrai que ça avait tendance à paralyser le pays.
C'est donc dans ce système monarchique finissant, Thierry Thévenin, qu'arrive cet arrêté qui date de 1777, je crois, qui donne le monopole aux apothicaires de la délivrance des plantes, c'est ça?
C'est exactement ça, oui. Des remèdes, en fait, hein. Donc, mais c'est
oui, donc des plantes.
Des plantes, oui, parce que ça revient un peu à ça. Donc effectivement, c'est vraiment le début du monopole absolu des apothicaires pour la délivrance des plantes.
Médicinales, précisons.
Médicinales, oui. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y avait vraiment une société en tension à cette époque. Parce que quelques années avant, Turgot avait essayé de supprimer toutes ces corporations et à faire une société plus ouverte. Et en fait, ce 1777, ça vient complètement à l'encontre de cette politique-là. C'est vrai que Turgot a été disgracié. Et donc là, les apothicaires obtiennent un véritable monopole, quoi. Et ils sont très forts, puisque donc ils vont même survivre à la Révolution. Ça, c'est vraiment assez étonnant. Parce que donc la Révolution balaye toute cette société. Et donc, par exemple, en 1791, il y a la suppression totale des jurands et des corporations. Donc quiconque, je crois qu'on avait déjà dit ça, mais quiconque peut exercer la médecine, la pharmacie. Mais en fait, ça va être restauré immédiatement. Il y a des gens vraiment qui arrivent à passer. On voit que c'est une corporation très très puissante. Des gens comme Fourcroix, qui donc lui, il est issu de l'ancien régime. Il va passer toute la Révolution, il va passer toute la Terreur, et il va devenir l'artisan au niveau de la santé de Napoléon, quoi. Il va même continuer au moment du Premier Empire. Donc on voit que c'est quelque chose qui est très stable et très très puissant. Et donc il veut faire sa place absolue, quoi.
Le 19e siècle, avec sa révolution industrielle, sa transformation des mentalités, curieusement, entérine et confirme cette toute-puissance des apothicaires, qui ne s'appellent plus des apothicaires.
Voilà, qui s'appellent des pharmaciens, depuis le monopole de 1777. C'est là où ils changent de nom et qu'ils deviennent pharmaciens. C'est un peu rigolo pour la petite histoire, pharmacien, ça vient du grec, ça veut dire empoisonneur, étymologiquement. Bon, ça c'est pour faire une petite blague. Donc le 19e, c'est effectivement l'industrialisation de la France et celle de la santé aussi, la centralisation du pouvoir. Le régime napoléonien, c'est ça, c'est un pouvoir central très très fort. Et il y a une école nationale de pharmacie et tout est centralisé, l'enseignement, les pratiques, l'attribution des pharmacies, c'est là où il y a des pharmaciens de première classe, deuxième classe, et donc les herboristes là-dedans sont quasiment... ils ont toujours leur petit strapontin. Ils ne sont pas disparus encore, mais c'est vraiment un strapontin. Ils sont complètement sous tutelle des pharmaciens. Donc c'est les pharmaciens qui délivrent l'enseignement des herboristes. Alors c'est l'époque très curieuse où les pharmaciens disent souvent que les herboristes sont des incompétents, qu'il faut les supprimer, que c'est des dangers publics, alors que c'est eux qui les enseignent. Donc là, on se dit, il y a un problème, parce que comment ça se fait qu'ils ne sont pas bons si c'est eux qui sont chargés de les enseigner? Mais bon, voilà, ils ont leur place dans le code de santé publique établi par...
Enfin, c'est une place quand même très inconfortable, puisqu'effectivement, ils sont sous la coupe des pharmaciens qui passent leur temps à leur taper dessus et qui ont la haute main sur les décisions politiques, toujours.
Oui, c'est clair, oui. Ils sont vraiment là. Enfin oui, moi j'appelle ça un strapontin, mais ils sont tolérés, parce que je pense qu'ils ont encore trop d'importance et trop de place. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'au début du 19e, il n'y a pas grand-chose qui les distingue finalement d'un pharmacien dans l'exercice de la préparation des remèdes. Les choses se font lentement. Donc on sent arriver la chimie, les méthodes d'extraction, mais ça reste quand même assez expérimental. Le début 19e, c'est là où on commence à isoler les alcaloïdes, la morphine, les choses comme ça, mais ça reste quand même vraiment un peu de la recherche de pointe. Et le petit pharmacien de campagne, il n'est pas très très différent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de conflits. Il travaille quasiment avec les mêmes plantes et sous des formes qui sont encore assez proches. Ça reste quand même encore artisanal. L'idée de Fourcroy, donc, qui a travaillé donc, pour Napoléon à réformer la santé et la pharmacie en France, c'est justement, il a été appelé l'apôtre de la nouvelle chimie. C'était un chimiste, il faut voir ça. Et donc lui, c'était de dépoussiérer, de dire les apothicaires d'Ancien Régime, c'était vraiment moitié sorcier. Il avait à peu près, je pense, le même sentiment vis-à-vis des apothicaires et des herboristes, comme quoi c'était des gens du passé, et que là, il fallait aller vers une pharmacie chimique, extraire, purifier, prendre juste les molécules présentes dans les plantes. C'est vers ça qu'on avance. Et là, donc le 19e, c'est vraiment le temps du fossé qui se sépare et qui s'agrandit entre apothicaires et herboristes. Les herboristes restent du côté d'une pratique proche de la nature, avec des plantes quasiment en l'état, séchées ou un petit peu macérées dans de l'huile ou dans de l'alcool, mais des choses qui restent très très basiques, qu'on peut quasiment faire dans sa cuisine, qu'on peut faire dans sa cuisine, alors que la pharmacie va aller de plus en plus vers des remèdes qui sont de l'extraction avec des solvants, avec... Alors on faisait même un peu des horreurs, à l'époque on mettait un peu tout dans les remèdes, du mercure ou je sais pas quoi, mais ça va s'éloigner vraiment de la nature.
Et la population, où va-t-elle? Est-ce qu'elle reste scindée, les plus pauvres avec les herboristes et les plus aisés avec ces nouveaux pharmaciens?
On peut penser ça, oui. Alors après, bon, il y a des affinités, il y a des gens même aisés qui vont faire confiance à la nature et qui vont... Mais les herboristes s'adressent sans doute d'abord aux couches populaires et désargentées. Et les pharmaciens, c'est sûr que c'est un peu plus cher.
Mais si ce n'est tout de même, écrivez-vous, Thierry Thévenin, que la confiance va de plus en plus du côté des procédés chimiques, des méthodes modernes, et qu'elle déserte peu à peu le camp des plantes et de la nature.
Ça, c'est évident, oui. Il y a eu, faut voir qu'au 19e, il y a eu vraiment des épidémies assez terribles qui ont fait des millions de morts, hein, la tuberculose... même la variole encore au tout début du 19e, a vraiment travaillé dans le sens de la médecine ou de la pharmacie chimique. Les premiers vaccins apparaissent et au début c'est un engouement assez incroyable. C'est assez frappant de voir qu'en quelques années on vaccine des millions de gens et tout le monde se tourne vers ça. Donc il y a un abandon assez net effectivement des plantes qui va jusqu'au milieu du 20e siècle. Mais c'est vrai que le 19e, c'est petit à petit l'abandon. Ça devient ringard, ça devient... On voit ça des fois dans des textes, d'ailleurs dans la littérature, hein, où les herboristes sont décrits comme à moitié sorciers, qui font des breuvages. Enfin, on voit des mots qui ont des connotations vraiment péjoratives.
En lien d'ailleurs avec la façon péjorative de présenter le monde paysan, d'une manière générale.
Oui, 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 parce que voilà, le monde paysan, c'est la routine, c'est l'absence de créativité, c'est quelque chose qui est archaïque, qui va vers le passé, qui est souvent décrit comme ça.
Comme un monde clos.
Voilà, comme un monde clos. Il y a une citation que j'ai mise dans le livre qui je trouvais assez édifiante, qui est bien plus d'ailleurs tardive que ça, puisque c'est dans les années 40, et qui dit exactement ça. Le monde paysan, c'est un monde clos, c'est un monde sans imagination, sans créativité, qui tourne sur lui-même. C'est hyper péjoratif par rapport à la chimie, aux savants, aux scientifiques qui inaugurent une ère nouvelle et qui sont capables de tous les miracles, quoi. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit 19e et une bonne partie du 20e siècle.
Alors, pendant toute cette période-là, il n'y a pas un Thierry Thévenin pour faire un plaidoyer pour les herboristes et l'herboristerie? Tout le monde les abandonne?
Non, 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 il y en a toujours. Alors au 19e, il y a un médecin qui a vraiment défendu la pratique des plantes médicinales indigènes, c'est-à-dire celles qui sont vraiment accessibles à la médecine des simples, qui a été heureusement réédité d'ailleurs au 20e siècle, c'est Cazin, le docteur Cazin. Donc c'était un médecin diplômé de la faculté, mais quelqu'un très intéressé par l'herboristerie traditionnelle, par les savoirs populaires, et qui nous a laissé un ouvrage assez magnifique. Donc le traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes, c'est très 19e. Alors c'est à prendre avec des pincettes aujourd'hui, parce que bien sûr il y a des maladies qui existaient, il était dans le nord de la France, dans le Boulonnais, des maladies qui existaient à l'époque qui ont quasiment disparu aujourd'hui, et on a aujourd'hui des maladies qui n'existaient pas à son époque. Il y a aussi un vocabulaire bien sûr qui date, hein, qui est un peu vieilli. Les médecins ont toujours aimé employer des langues un peu obscures, un peu hermétiques, quoi. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que c'est une pituite ou des choses comme ça. Donc c'est bien, si on veut utiliser ce livre, de prendre des pincettes, peut-être d'acheter un dictionnaire médical du 19e pour essayer de comprendre de quoi il parle. Voilà, mais quelqu'un comme ça a vraiment défendu les plantes médicinales indigènes et l'herboristerie traditionnelle. Après, au 20e siècle, il y en a eu aussi. Bon, il y a eu Mességuet, hein, qui est très connu. Non, je pense qu'il y a toujours eu des gens qui ont tenté de défendre ça, mais c'est vrai que jusqu'à récemment, et même on peut dire encore aujourd'hui, ils sont quand même relativement minoritaires, ça c'est sûr.
Ils sont d'autant plus minoritaires, ces défenseurs de l'herboristerie et des herboristes, que les herboristes, eux, sont quasiment en voie d'extinction, pourrait-on penser, puisque plus un seul diplôme n'a été délivré depuis maintenant plus de 70 ans. Thierry Thévenin, c'est Vichy qui a arrêté l'étude et le diplôme d'herboriste, 1941.
Alors Vichy à Bondo. Donc c'est vrai que c'est au moment de Vichy que ça s'est fait, le 11 septembre 1941, mais c'est une loi qui était dans les cartons depuis bien avant Vichy, et c'est quelque chose qui correspondait vraiment à une évolution sociale. Ça faisait 100 ans que les pharmaciens réclamaient la disparition des herboristes. Il y a eu des thèses qui ont été faites pour démontrer que c'était des charlatans, que c'était des gens dangereux. Les colporteurs aussi ont été vraiment mis dans le même panier que les herboristes. Les colporteurs, dans les campagnes, pendant longtemps... apporter aussi des remèdes d'une région à une autre. Donc tous ces gens-là, ça faisait longtemps qu'on voulait les supprimer. Mais il faut voir que dans cette loi promulguée par Vichy, c'est un peu un détail. Comme toute loi, ça fait pas mal de pages. Et la suppression du diplôme d'herboriste, c'est une ligne. C'est un alinéa. En fait, cette loi, c'était davantage vraiment la vraie industrialisation de la pharmacie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la pharmacie en France était vraiment... On devait être pharmacien. Pour pouvoir fabriquer des médicaments, on ne pouvait pas avoir accès donc, au secteur du médicament si on n'était pas pharmacien. Et la demande qui était faite depuis le début, tout début 20e siècle par les pharmaciens, c'était de pouvoir faire comme en Allemagne, qui avait une pharmacie très puissante, c'est-à-dire que c'était plus proche de l'industrie chimique, on pouvait faire entrer au capital d'une entreprise de pharmacie des non-pharmaciens et des financiers. Et donc la loi du 11 septembre, alors c'est vrai que ça se détournait, ça commençait à exister en France, mais ce n'était pas légal. On était encore dans la vieille loi napoléonienne de 1803, où la pharmacie, c'était pour les pharmaciens. Et donc là, ça a levé un peu le barrage. Et ça a permis à la finance, à la grande finance, au capital, d'entrer dans le secteur de la pharmacie. Et les herboristes...
C'est pas rien, puisque c'est ça qui a permis l'édification d'empires comme celui de Rhône-Poulenc, par exemple.
Bien sûr, oui. Voilà, tout Servier, tous ces grands empires pharmaceutiques sont nés...
À cette loi de 1941.
Ça leur a donné des ailes, quoi. Ils existaient avant. Mais ça leur a vraiment donné de l'oxygène, quoi. Ça a entériné une situation. Et du coup, les herboristes, ça a été un peu comme un petit cadeau qu'on a fait aux pharmaciens d'officine qui ne voyaient pas d'un bon œil cette loi, parce que pour eux, ce n'était pas bon. Les gens qui défendaient la pharmacie d'officine, où dans le préparatoire, à l'arrière-boutique, on prépare les remèdes, pour eux, l'industrie, c'était un peu la fin. Et c'est vrai que ça a été un peu la fin de la pharmacie artisanale, où le pharmacien est devenu simplement un espèce de... On dit épicier aujourd'hui, parce que les mots... change de sens au fur et à mesure des siècles, mais voilà, comme un petit commerçant qui vend des boîtes toutes faites et qui pose des vignettes. C'est en 41 qu'on est arrivé à vraiment entériner ce pharmacien-là. Donc, sans doute, les pharmaciens d'officine, certains étaient vraiment hostiles à cette évolution de la pharmacie. Ben, en échange de la loi, en lot de consolation, on leur a dit « Bon, allez, ça fait des siècles que vous nous réclamez la fin des herboristes, on va supprimer les herboristes ».
Il y en avait encore, beaucoup ?
Ben, il y en avait encore. Les chiffres varient un peu suivant les sources, mais à environ 4 à 5 000 herboristes. Avec une catégorie sociale assez marquée. Il y a un sociologue qui a vraiment cherché sur ces années-là, et on se rend compte que c'est beaucoup de femmes, souvent des femmes assez fragiles socialement, peu aisées, beaucoup de femmes seules ou divorcées, et donc pas du tout représentées politiquement. Donc c'était important, hein, 5 000 personnes, c'était important. Mais sous-représentés au niveau politique.
Oui, effectivement, pas des personnes de pouvoir. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous soulignez là, Thierry Thévenin, c'est que les pharmaciens ne sont pas les grands vainqueurs non plus de cette histoire, comme on pourrait l'imaginer un peu hâtivement, puisqu'en fait, ils ont perdu tout simplement ce qui faisait le cœur de leur métier, savoir préparer des médicaments.
Oui, il y a un rapport de l'Académie de pharmacie qui dit au XXe siècle, le pharmacien a perdu sa qualité de notable. Et c'est vrai que c'est exactement ça. Au début du XXe siècle, c'est 83% des remèdes qui sont délivrés à l'officine qui sont préparés sur place, dans le préparatoire. C'est un artisan, c'est quelqu'un qui fabrique lui-même. Et chaque pharmacie avait son sirop, le sirop machin, la pilule machin. Dans les années 70, donc même pas aujourd'hui, ça ne représente plus, alors les chiffres, on peut toujours dire des bêtises, mais c'est même pas 10%, quoi. Donc on voit qu'il est vraiment juste devenu un distributeur. Et le métier de pharmacien a vraiment souffert de cette loi, ça c'est clair. Et en fait, le grand gagnant de la loi de 41 et de cette pharmacie moderne, c'est l'industrie.
Alors on va encore soulever un peu pour chercher dans les coins et les dénicher, parce que décidément, elles ont tendance à se cacher terriblement. Les plantes, où sont-elles dans cette partie de l'histoire?
Les plantes, c'est vrai que c'est toujours ces choses qui sont toujours là. Et même, elles reviennent en force dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec la vague verte.
Non, mais attendez, on ne va pas aller tout de suite sur la vague verte. Moi, je veux savoir, dans ce curieux combat dans lequel les herboristes sont sortis par chaos, mais en fait ceux qui apparaissaient comme les vainqueurs, les pharmaciens, sont également un peu restés sur le carreau. Et le vrai vainqueur, ce sont les gros empires de la chimie et de la pharmacie. Mais en s'appuyant sur les plantes, elles sont toujours chez eux, les plantes, ou alors elles ont disparu? Qu'est-ce qu'elles sont devenues dans les remèdes, ces fameux remèdes?
Oui, bien sûr, là, c'est vrai qu'il y a encore à peu près la moitié des médicaments qui sont directement issus du végétal. On parle souvent de médecine synthétique, mais il y a beaucoup aussi d'extraction de principes actifs qui sont isolés, mais qui viennent directement des plantes. Mais du coup, ça devient vraiment une matière première pour l'industrie. Il y a un exemple qui est très, très parlant, c'est la petite ville de Milly-la-Forêt, donc qui a une longue tradition d'herboristerie. Il y a des traces depuis le Moyen-Âge. Et ben, au moment encore donc de la loi de 1941, il y a plus d'une centaine de familles à Milly-la-Forêt qui vivent des plantes médicinales. Et qui
450, dites-vous.
Oui, c'est ça. Oui. Il y a un nombre vraiment important de familles qui vivent de ça, sur les communes alentours d'ailleurs, et donc qui fournissent les officines, sans doute, les pharmaciens, via sans doute la coopérative centrale des pharmacies, et aussi tous ces milliers d'herboristes qui restent. Et on voit vraiment le glissement très rapide. En fait, ça suit à peu près la courbe des herboristes. Au fur et à mesure que les herboristes vieillissent, ferment boutique, meurent ou partent à la retraite, en fait, le nombre des producteurs amis disparaît. Et aujourd'hui, en fait, il n'en reste plus. Ou il en reste un. Et c'est Darbonne, c'est la famille Darbonne, qui est numéro un mondial des épices, qui est présent dans 110 pays ou 120 pays. On voit vraiment qu'effectivement, les plantes sont toujours là, mais elles sont vraiment devenues, en grande majorité, il y a des résistants, mais en grande majorité, c'est devenu une matière première, une ressource, presque comme un minerai, quoi, pour la fabrication de médicaments industriels.
Donc voilà, les plantes disséquées, réduites en poudre, en minerai, disparues au fin fond de gélules, de préparations, et dehors. Le savoir autour des plantes, j'imagine qu'il s'amenuise avec la disparition des herboristes et de ceux qui les fournissaient éventuellement, les producteurs, les cueilleurs.
Alors effectivement, ces années de 1940 jusqu'à la fin du XXe siècle, c'est peau de chagrin. Effectivement, les savoirs, ils suivent le même chemin. Donc on ne forme plus officiellement d'herboristes, l'école d'herboristerie est fermée. Et il va y avoir un véritable trou jusque dans les années 80, où là, il y a des associations, 1983, 84, 85, qui commencent à dire on peut pas laisser partir ça comme ça, et qui donc, avec des anciens professeurs qui enseignaient à l'École nationale d'herboristerie ou dans les facs de pharmacie, commencent à monter des enseignements non reconnus, qui ne sont pas diplômants, mais commencent à créer à Paris, à Lyon, il y a différents endroits en France où on commence à recréer des écoles. Mais c'est vrai que c'est effectivement peau de chagrin. Les savoirs vraiment populaires, eux, de même. Aujourd'hui, les gens qui font des tombes botaniques le savent bien. Il faut vraiment trouver des gens qu'on s'entend, quoi, pour qu'ils puissent encore avoir quelques pratiques directes.
Aujourd'hui, s'entend, mais ce qui est tout à fait étonnant et fascinant, Thierry Thévenin, c'est que cette réaction, elle a eu lieu in extremis, mais juste au bon moment, puisque les années 80, dites-vous, en fait, c'est le moment où ces derniers herboristes qui avaient été formés, diplômés, arrivent à l'âge de la retraite.
Oui, moi j'appelle ça la profession qui ne veut pas mourir. Parce que c'est vrai que ça fait des siècles où on cherche à supprimer d'une manière ou d'une autre les herboristes. Et en fait, c'est toujours in extremis. On dirait qu'il y a un sursaut et il y a un attachement assez fort. Alors on ne sait pas, l'avenir va nous dire si c'est une agonie qui n'en finit pas ou si c'est vraiment réellement une profession qui ne veut pas mourir. Mais c'est clair qu'il y a la renaissance in extremis, ça c'est sûr. Oui.
Mais une renaissance assez... qui s'assortit d'une liberté assez grande, puisque justement, comme elle se fait hors des lois, hors des clous, hors des normes en vigueur, eh ben, ça permet à énormément de gens de revenir sur le terrain, de s'intéresser, d'apprendre, de se former. Et les années 80, vous parliez tout à l'heure de vagues vertes, et de fait, il y a quand même un élan assez impressionnant, et vers les plantes, et vers les savoir-faire.
Oui, c'est vraiment un petit âge d'or hein, qui est arrivé vraiment à point. Beaucoup d'enquêtes ethnobotaniques ont été faites, bon, notamment par Pierre Le Taguy, par pas mal de gens dans les campagnes. Il y avait une mission du patrimoine, le ministère de la Culture, qui avait permis de faire un travail vraiment formidable. C'est dommage qu'on n'ait plus les moyens qu'il y a eu à l'époque, parce que tout n'a pas été fait loin de là. Mais donc voilà, il y a une période un peu faste de retour d'intérêt vers les plantes dans les années 80.
Mais si je le souligne, Thierry Thévenin, c'est parce qu'on a le sentiment que dans ces années-là, il a pu être possible, ou il aurait pu être possible, que de nouveau, tout le monde puisse avoir accès aux plantes et aux connaissances qui entourent les plantes. Parce qu'avoir accès aux plantes, c'est bien sympathique, mais enfin, si on ne sait pas à quoi sert un plantain ou une ortie, il y a guère d'intérêt à s'approcher de ces plantes-là. Mais c'est comme s'il y avait eu une forme de démocratisation absolue des possibilités de s'instruire sur les plantes et de les utiliser. Ça, ce sont les années 80. Et si je le souligne, c'est parce que depuis, l'étau se resserre, se referme à nouveau, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que la profession d'herboriste reste toujours interdite, inexistante. Les quelques herboristes qui existent sont soumis à bon nombre de pressions, dont vous pourriez d'ailleurs nous dire quelques mots. Mais les plantes elles-mêmes sont aujourd'hui enfermées.
Alors, ce qui nous arrive actuellement, c'est vrai que c'est la mise en place de normes, souvent sous forme d'ailleurs de règlements européens, où effectivement il y a un encadrement très strict et très sécuritaire autour des plantes. Alors, quand on est dans une pratique complètement autonome, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on veut faire une profession donc d'herboriste et délivrer des plantes au public, on va être soumis à des processus administratifs, souvent, hein, c'est-à-dire se mettre en conformité avec des règlements, et qui sont effectivement très très lourds. Quand on est à un niveau industriel, il n'y a pas de problème. Quand on travaille avec des choses qui sont vraiment très chimiques ou des molécules de synthèse, c'est réalisable. Après, avec des plantes, c'est difficile, parce que souvent, c'est des normes, voilà, qui sont pensées comme pour un produit industriel et un niveau industriel, sauf que là, on est souvent, quand on est herboriste, on est plutôt à un niveau vraiment artisanal, et en plus, on travaille avec du vivant et avec des choses qui sont, par définition, pas identiques,
Qui sont mouvantes.
qui sont mouvantes. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu la nouvelle menace. C'est comment les plantes, donc, qui sont très différentes, si je ramasse une feuille de ronce en Alsace, donc en climat continental, ou dans le Pays Basque, ou en Bretagne, ou en Provence, elle n'aura pas exactement c'est sûr qu'elle n'aura pas du tout la même composition chimique. C'est pas quelque chose de standard, quoi. On n'est pas dans un monde standard, et donc on est un peu dans l'inconnu. Il y a aussi le fait que la société aujourd'hui réclame beaucoup de garanties de sécurité et veut tout savoir, et donc les plantes, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, puisque en fait il y a énormément de recherches, notamment cliniques, qui n'a pas été faite. C'est-à-dire comment on évalue l'efficacité réelle d'une plante aujourd'hui. On voudrait, quand on met quelque chose sur le marché, il faudrait pouvoir garantir de son efficacité de manière précise et de son usage. Et ça n'a pas été fait. Pourquoi? Tout simplement parce que aucun laboratoire va vouloir faire des recherches cliniques qui coûtent quand même des millions d'euros, qui coûtent une fortune, sur des produits qui ne sont pas brevetables. Une plante, c'est vivant, et heureusement, c'est pas brevetable. Les États aujourd'hui, bon, apparemment, n'ont pas forcément les moyens de faire ces recherches-là. Donc effectivement, on n'a pas vraiment de données scientifiques fiables sur l'évaluation d'efficacité des plantes, sur un standard de leur composition chimique. On reste dans l'empirisme. Les plantes restent dans le domaine de l'empirisme. Et ça, c'est pas tendance au niveau des politiques de santé, des politiques publiques de santé.
En revanche, ce qui est tendance, c'est d'aller vers une sorte de résolution par l'absence, c'est-à-dire de se concentrer sur un nombre très restreint de plantes dites médicinales et de ne cultiver, de ne commercialiser et de ne travailler que sur ces quelques plantes-là.
La tendance, ouais, c'est l'érosion de la biodiversité, y compris donc dans la biodiversité des savoirs et des pratiques. Et c'est vrai qu'on va se retrouver, la tendance est de se
Vous
retrouver.
dites on va, mais on se retrouve déjà.
On se retrouve, et petit à petit, au fur et à mesure des règlements, on se retrouve avec finalement des listes de plantes qui sont promulguées comme étant possibles d'utiliser en tant que complément alimentaire, en tant que médicament ou quoi. C'est une espèce de liste mondialisée, donc on va trouver un peu de plantes européennes, un peu de plantes asiatiques, puisque la médecine chinoise est puissante, et c'est quelque chose aussi qui est puissant au niveau planétaire, un peu de plantes de la médecine ayurvédique, quelques africaines, et voilà quoi, quelques américaines aussi. On se retrouve petit à petit au niveau mondial avec une espèce de culture mondiale au rabais, quoi. Et il y a des milliers de petites ressources mineures, locales, ou de traditions locales, qui sont évincées parce qu'elles ne sont pas rentables économiquement. Il n'y a aucun acteur, opérateur économique qui va aller monter des dossiers d'AMM, qui va aller faire les démarches nécessaires pour pouvoir les mettre sur le marché, parce que ce n'est pas rentable. Ça demande trop d'efforts pour l'intérêt économique que ça représente.
Oui, vous dites évincées, c'est plus grave que ça, Thierry Thévenin, parce qu'elles sont carrément interdites. Et ceux qui s'obstineraient à les connaître et à les proposer s'exposent à des poursuites.
Ah ben, ils se retrouvent hors la loi, c'est clair, quoi. Et alors bon, on n'a pas tous une caméra au-dessus de la tête, mais c'est vrai qu'en tout cas, quand on ne veut pas rentrer dans les cases, ben on vit avec un couperet au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'on prend des risques, parce que le jour où il y a malheureusement quelqu'un qui va faire une allergie ou qui va avoir un problème avec une plante qui n'est pas dans les listes autorisées, là, ça peut être très grave pour la personne qui l'a mise sur le marché. Donc c'est vrai que voilà, on perd beaucoup quand même de la richesse culturelle et des pratiques qu'on avait autour des plantes.
Vous avez une vision bien optimiste, tout de même. Thierry Thévenin, vous dites on vit avec un couperet sur la tête, mais quand on vous lit, on a le sentiment qu'il y a une forêt de couperets et d'épées de Damoclès qui sont suspendues au-dessus des têtes de ceux qui ont l'audace de s'intéresser aux plantes, puisque là, on a parlé d'un des problèmes, c'est-à-dire si on sort du très traditionnel lavandin ou je ne sais quelle plante majeure, on s'expose à des risques, mais au sein de chaque plante, selon qu'on la présente comme alimentaire, condimentaire, cosmétique, chimique ou médicamenteuse, la même plante, elle va appartenir à des règles et des normes tout à fait différentes et elle va vous entraîner dans une jungle administrative à chaque fois très lourde, mais à chaque fois différente.
C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Oui, c'est vrai que c'est. Ben voilà, c'est les plantes sont polyvalentes, sont transversales. Et c'est vrai que voilà, à chaque fois, on a affaire et ça peut aller à des aberrations. Je vais prendre l'exemple des huiles essentielles, qui est une forme assez moderne, assez récente de l'usage des plantes. Aujourd'hui, la réglementation va pousser les gens qui mettent sur le marché les huiles essentielles à choisir la case de l'aliment, de l'alimentaire, notamment s'ils sont en bio. Alors c'est vraiment tout bête, c'est des effets collatéraux quoi. En fait, pourquoi ils vont choisir cette case-là? Parce que c'est la plus souple actuellement au niveau administratif, c'est celle qui demande le moins d'efforts, parce que les autres sont à peu près insurmontables quand on est à petite échelle. Mais il y a aussi tout bêtement l'histoire de la TVA, en fait, et du label bio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on ne peut pas apposer d'un label bio sur un produit qui n'est pas alimentaire, c'est réservé à l'alimentaire. Et la TVA va être à 5,5 si c'est un produit alimentaire, et ça ne sera pas le cas si c'est un produit d'hygiène ou autre chose. Donc on va choisir ce qui est aberrant, parce qu'une huile essentielle n'est pas un aliment. Mais
N'est surtout pas un aliment.
surtout pas un aliment. C'est un aliment en dernier lieu, quoi. C'est d'abord quelque chose qui sert à parfumer un endroit et qui va surtout être diffusé par voie aérienne. Mais la réglementation va pousser dans ce sens-là. Donc c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de travailler avec les plantes.
On pourrait terminer sur un exemple que je trouve encore plus savoureux, Thierry Thévenin, c'est cette liste qui est en train d'être mise en place pour interdire un certain nombre de plantes comme complément alimentaire pour les animaux. Et c'est une liste dont, dites-vous, la plupart des ingrédients n'existent pas. Et pourtant, cette liste a été établie par un groupe d'experts européens et va s'appliquer, comme étant la loi, à l'ensemble des pays européens.
Oui, c'est vrai que quand on découvre cette liste, ça ressemble à une blague un peu. Alors, c'est les apéritifs, les additifs pour l'appétence des animaux qui sont interdits depuis le mois de mars, en fait. Et effectivement, on interdit des choses qui existent.
Mars 2013.
Ouais, qui n'existent pas. On interdit l'huile essentielle de plantain, l'huile essentielle de mauve, l'huile essentielle de bourrache, autant de choses qui n'existent pas. Le plantain n'a pas d'huile essentielle.
Il y a aussi l'angélique qui n'est pas oléagineuse, mais qui est.
Voilà, on dit l'huile de graine d'angélique, donc c'est pas une graine oléagineuse. Bon, il y a ça surprend vraiment. On se dit comment ça se fait que des experts mandatés par l'Europe puissent faire de telles énormités. Il y a aussi dans cette liste des plantes qui existent bel et bien, mais là on se demande comment on va faire appliquer la loi. Par exemple, le cynorhodon va être interdit aussi en tant qu'additif alimentaire.
Le cynorhodon, c'est la baie de l'églantier qu'on trouve dans toutes les haies.
Alors c'est vrai qu'on détruit beaucoup le bocage et qu'on massacre beaucoup
Vous me rassurez.
au broyeur, mais sinon on se dit comment on va faire? On va peut-être mettre une caméra sur le crâne de la brebis ou du cheval, et puis dès qu'on voit qu'elle va être verbalisée, dès qu'elle a grignoté un cynorhodon, il faut voir que les cynorhodons, c'est le fruit le plus riche en vitamine C qu'on ait en France, loin devant tout autre fruit, et c'est très important pour les animaux. Moi j'ai une magnifique photo d'âne qui est en train de brouter les cynorhodons, donc lui il est hors la loi. Quoi, et c'est un délinquant. Donc voilà, il y a vraiment des aberrations comme ça dans ce texte. C'est vrai que ça fait un peu peur parce que ça s'applique, voilà, c'est un règlement, donc ça s'applique immédiatement à 450 ou 500 millions d'Européens. C'est un petit peu fou. Et c'est suivi des fois dans les faits. Il y a des gens, des éleveurs cette année, à la suite de la mise en application de ce règlement, qui ont eu la visite des fraudes, on a fouillé leurs armoires à pharmacie, et dès qu'ils avaient un remède qui ne correspondait pas à ce qui était autorisé, c'est des gens qui ont aujourd'hui des problèmes et qui ont des ennuis. Donc c'est vrai que ces couperets ne sont pas juste virtuels, ils existent bel et bien, quoi.
Thierry Thévenin, on a parcouru avec vous quelques siècles, on a vu disparaître une profession, on a vu disparaître les filières d'enseignement de cette profession, on a vu disparaître l'autorisation d'accéder simplement aux plantes, puisqu'elles sont désormais inscrites dans des tableaux et qu'elles n'ont pas le droit d'en sortir et que seuls ceux qui ont les monopoles aujourd'hui peuvent encore les commercialiser. Pour terminer sur une note tout de même plus plaisante, ce qui est très étonnant, c'est que dans cette sorte d'aspirateur qu'on a décrit pendant une heure, cette vague verte des années 80, elle est loin de s'être éteinte. Et au contraire, vous dites qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui veulent s'installer en herboristerie, qui apprennent et qui s'intéressent à ce métier.
Oui, mais ça, c'est chasser le naturel, il revient au galop. En fait, c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Bon, moi, j'enseigne dans plusieurs centres de formation et on voit effectivement beaucoup de candidats qui ont un profil assez commun. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui ont envie d'aller de bout en bout, faire le vieux métier des herbiers. C'est-à-dire ils ont envie de cueillir par eux-mêmes, sécher, transformer, pouvoir vendre la plante en donnant des conseils de base. Ça, c'est vraiment il y a une demande sociale. Il y a quelques centaines de jeunes, soit dans les écoles d'herboristerie, soit dans les centres de formation écoles spécialisées, soit dans des stages qui sont plus de l'ordre privé. On voit beaucoup de jeunes qui veulent faire ça. Et ça, c'est notre part, parce que vraiment, ça se passe en nous-mêmes, en chacun de nous-mêmes. On a une part de nous qui est sécuritaire, qui a peur, et qui a peur de la nature, et c'est vraiment quelque chose de très ancien. François Terrasson avait très bien dit ça dans La peur de la nature. Et puis il y a cette part aussi qui a envie d'être libre, qui a envie de vivre, et puis qui est curieuse et qui est prêt à prendre des risques, qui est un peu aventurière. Et c'est pour ça que je reste optimiste. Je pense que les plantes, c'est cet appel-là, c'est cet appel de dire bah, la santé, les saveurs, les parfums, les couleurs, c'est là. Il suffit juste de sortir, et ça, c'est quelque chose, je pense, qui ne peut pas s'éteindre. Et je sais aussi que cette tendance au tout sécuritaire qui transparaît vraiment dans les règlements européens et de ce monde industriel qui, soi-disant, c'est souvent d'ailleurs vraiment un peu une croyance, quoi, parce que c'est souvent d'abord un peu comme un rite, ce rite sécuritaire, où parce qu'on a mis le petit bonnet sur la tête, parce qu'on a respecté telle et telle chose, soi-disant on risquerait plus rien, ça c'est quelque chose qui peut amener qu'à la paralysie. On le voit bien, tout le monde en a marre, et il y a des millions d'Européens qui en ont marre et qui voient que, ok, soi-disant on nous promet la sécurité, mais du coup on ne peut plus vivre car on est paralysé. Donc moi je reste optimiste et je pense qu'on va s'en sortir.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez toutes les coordonnées pour le livre de Thierry Thévenin, Plaidoyer pour l'herboristerie, publié aux éditions Actes Sud. Vous y retrouverez bien sûr aussi notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est toujours le 01 56 40 36 72. Notre adresse, c'est Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposée par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage, Pascal Bénard, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.
Thank you.